Radio Campus 106,6 FM www.campusille.com est heureuse de vous présenter Cité Philo. Et oui, cette année, Radio Campus est partenaire de Cité Philo et durant 3 semaines, nous allons tenter de vous faire vivre, voire revivre certains événements de ce grand festival de philosophie à Lille. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Claire là, à qui je laisse carte blanche pour présenter son invité et l'ensemble donc de ce qu'elle a pu ressentir, vivre, nous faire partager ses impressions, ses émotions et nous présenter aussi la suite du programme de Cité Philo édition 2016. Bonjour Claire.
Bonjour et bienvenue pour cette deuxième émission consacrée à Cité Philo. La semaine dernière, nous avions rencontré Gérard Engrand pour aborder la création de Cité Philo et l'invité d'honneur de cette 20e édition du festival, Georges Didi Huberman. Vous pouvez retrouver le replay de cette émission sur campuslille.com. Vous écoutez Radio Campus 106 FM et il est 17h05. Aujourd'hui, nous entrons encore un peu plus dans le vif du sujet avec Alain Laume, responsable du thème « La République et l'universaire ». Bonjour Alain Laume, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette rubrique de l'émission Quoi de neuf.
Bonjour.
Tout d'abord, pourriez-vous nous expliquer un peu plus et un peu mieux votre rôle dans l'association Philo Lille qui organise le festival Cité Philo et êtes-vous tous les ans responsable du thème de ce festival ?
Alors moi je suis membre de l'association Philo Lille, dont vous savez que c'est elle qui monte la manifestation, donc pour la 20e année, c'est notre anniversaire. Je suis plus précisément membre du conseil d'administration de cette association, mais je suis surtout membre du comité de pilotage, qui est une structure que chaque année le conseil d'administration constitue en lui donnant pour mission de créer l'édition à venir. Vous avez d'ailleurs la liste des membres du comité de pilotage sur la deuxième couverture de la plaquette. Dans ce comité de pilotage, j'ai pris cette année plus expressément la responsabilité du thème, mais ça n'est pas une règle. Il m'est arrivé déjà de être responsable du thème certaines années précédentes, mais c'est une ancienne qui tourne. Hein, et sans doute que l'an prochain, ce sera par exemple quelqu'un d'autre. Hein.
D'accord. Quand j'ai voulu préparer cette émission, j'ai voulu préparer un micro-trottoir. Un micro-trottoir qui devait aborder le thème de cette 20e édition de Cité Philo, La République et l'universel. Et là, je me suis confrontée à des gens qui me disaient « Je n'ai pas les connaissances ou je ne me sens pas habilitée à pouvoir répondre à cette question. Qu'est-ce que la République et l'universel ?» Diriez-vous quand même, du coup, que le festival Cité Philo est adressé à tous les publics? Est-ce qu'il ne faut pas, pour y aller, avoir déjà des premières connaissances philosophiques, peut-être, pour comprendre ne serait-ce que le vocabulaire ou rien que le thème, justement, de ce festival?
Alors là, il faut distinguer peut-être deux choses. Le problème, d'abord, du choix du titre. Il a été pas mal débattu dans l'association, pour des raisons de fond. Je militais personnellement en faveur de ce titre, qui n'était pas forcément considéré comme le meilleur en termes de communication. D'aucuns avaient pensé que Place de la République serait plus d'allure. Sauf que Place de la République serait fait signe vers des événements un peu symboliques. C'était le moment d'ailleurs du phénomène Nuit debout. Ça n'a pas permis d'évoquer le thème dans toute son ampleur. Alors, que les gens ne sachent pas réagir à la République et l'universel, à un thème comme celui-là, ça ne tient peut-être pas seulement au fait que ça a l'air un peu philosophiquement abstrait. Ça tient au fait surtout qu'on ne réfléchit plus guère sur la République. La République, c'est quelque chose qui finalement s'est banalisé, va de soi, nous vivons en République. On peut considérer que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a plus, depuis la Libération plus exactement, il n'y a plus de force politique fortement constituée qui soit opposée à la République. La défaite du régime de Vichy, qui incarnait au contraire, lui, qui mobilisait l'ensemble des forces anti-républicaines, puisque le régime de Vichy s'est appelé l'État français et a effacé la référence à la République, qu'il a fallu restaurer avec la 4e République. Jusque-là, pendant tout le 19e siècle, la République, c'était un enjeu de débat politique, idéologique. On était pour ou contre, on la défendait, on se mobilisait pour elle. Elle est maintenant le nom banal de nos institutions et donc il ne semble pas nécessairement utile d'y réfléchir plus que cela, ce qui est sans doute très dommageable. De fait, depuis quelque temps, vous l'aurez remarqué, et là je commence à introduire la façon dont nous avons choisi ce thème, depuis quelque temps, en particulier depuis les attentats de janvier 2015, nous avons vu revenir des mobilisations, des discours, portant en particulier sur les fameuses valeurs de la République. Sauf que ces valeurs de la République, elles sont un peu équivoques. Hein. Personnellement, j'incline à penser que la République a des principes et non pas des valeurs, parce que des valeurs, ce sont des choses que l'on a en propre, que l'on défend. Vous avez vos valeurs, j'ai mes valeurs. Et par conséquent, les valeurs de la République peuvent fonctionner, être mises au service d'un discours d'exclusion. Il y a ceux qui les partagent et ceux qui ne les partagent pas. Résultat, on peut glisser progressivement des valeurs de la République vers l'idée d'une identité républicaine, puis d'une identité républicaine vers une identité nationale, hein, et vous voyez toutes les implications que ça peut donner. En disant que la République, ça repose sur des principes, nous mettons le doigt sur une difficulté, c'est que ces principes, ils sont effectivement consignés dans les préambules de notre Constitution, qui sont en particulier la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, et ces principes sont énoncés comme des principes universels. Donc si on défend les principes de la République, on est devant une difficulté. Faut-il les défendre uniquement pour les nationaux, pour ceux qui ont la nationalité française? Faut-il aussi les défendre pour les étrangers qui sont sur notre territoire? Est-ce que les principes de la République cessent là où la nationalité cesse? C'est une vraie difficulté, et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de interroger ce thème de la République en le couplant à celui de l'universel. Alors évidemment, l'universel, ça paraît un peu abstrait. En même temps, je pense que chacun peut comprendre ce qui est en jeu, à condition, évidemment, qu'on lui donne le temps d'y réfléchir. Vous comprenez qu'un micro-trottoir, ça demande une réaction immédiate. C'est un exercice difficile. On ne peut répondre que sur des choses qui sont familières, qui sont communes à un micro-trottoir. Vous ne pouvez pas répondre à des choses un tout petit peu plus réflexives, hein, par le biais d'un micro-trottoir. Alors maintenant, est-ce que nous nous adressons au grand public? J'ai envie de dire oui et non. Oui, dans le principe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de philosophie pour assister à Cité Philo. Mais il faut quand même avoir l'habitude de se poser un petit peu des questions sur la vie sociale, sur la vie politique, sur l'éthique. Hein. Même si on n'emploie pas forcément le mot éthique, on se pose quand même des questions de morale, voyez-vous. Il faut donc une curiosité tout de même intellectuelle, hein, pour les objets que nous proposons. Alors c'est l'occasion de dire un mot sur l'esprit dans lequel nous travaillons. Dès le départ, nous avons pensé la manifestation Cité Philo comme quelque chose de différent de ce qui fleurissait à l'époque et qui était les cafés philo. C'est très sympathique, les cafés philo, mais en général, le café philo, c'est quelque chose qui est un lieu de discussion où les gens peuvent venir non seulement manifester leurs interrogations, leurs curiosités, mais aussi leurs interrogations personnelles. C'est-à-dire la philosophie, ça aide aussi à vivre. On espère que ça va aider à vivre. Et donc, il y a une dimension, effectivement, de réflexion sur sa vie propre qui est prise en charge dans le Café Philo. Nous voulons traiter de la philosophie sur la scène publique. C'est-à-dire que nous demandons à des auteurs, des spécialistes, de venir discuter à une tribune d'objets qui sont des objets de débat, hein, qui sont des objets de débat dans la cité, devant un public qui commence par écouter ce qu'ils ont à dire, sur une séance qui dure en général 2 heures. Et au bout d'une heure vingt, d'une heure trente, dans le pire des cas, 1h30, si possible 1h15, 1h20, on donne la parole à la salle, hein, et les intervenants vont répondre aux questions du public. Et nous veillons à ce qu'il y ait entre les intervenants et le public un modérateur, nous y tenons beaucoup, qui est en général un professeur de philosophie qui enseigne la philo en classe terminale et qui va être un peu le passeur. Si l'exposé était un petit peu difficile, il va en reformuler certaines des données des conclusions pour les rendre un petit peu plus accessibles. Il aura veillé d'ailleurs à animer le débat pour qu'effectivement nous n'ayons jamais des exposés de caractère académique, mais nous veillons à ce qu'il y ait toujours une discussion vive, une discussion libre, une discussion ouverte. Et l'expérience montre que le public, quand la parole lui est donnée, quand on lui passe le micro, s'empare à son tour du débat et pose des questions qui sont en général des questions tout à fait pertinentes.
D'accord. Avec ce que vous venez de nous dire, toutes les manifestations ont-elles un rapport avec le thème? Donc là, j'ai cru comprendre que vous choisissiez le thème en janvier, oui, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Et vous choisissez du thème, puis vous choisissez vos intervenants, les différentes conférences, projections de films qui vont avoir lieu de cette manière.
C'est un petit peu plus complexe que ça, le dispositif. C'est-à-dire que la manifestation ne se réduit pas au thème. Hein, nous avons, si je puis dire, plusieurs grandes rubriques. Alors, il y a le thème. Alors, pour ce qui concerne le thème, effectivement, nous constituons un groupe de travail qui va réfléchir à la façon de le construire. On va faire une bibliographie, faire des lectures, voir les gens que nous sommes susceptibles d'inviter, et nous en débattons dans un groupe qui était là d'une dizaine de personnes cette année, hein, et qui va donc construire une problématique que nous avons d'ailleurs communiquée à nos intervenants, qui en étaient pour certains tout à fait contents, qui nous ont dit « on est venu d'autant plus volontiers qu'on a vu que vous proposiez un travail sérieux ». Et là, effectivement, il y a une quinzaine de rencontres qui ont été préparées de façon rigoureuse sur ce modèle-là. Puis, le canevas de cette problématique générale, hein, dans lequel nous spécifions, par exemple, la question du cosmopolitisme, rapport entre république et nation, y a-t-il un républicanisme à la française ? Vous voyez, ce sont des items que nous constituons pour nourrir la réflexion sur la République universelle. Ce canevas, nous le mettons à disposition du reste de l'association. Et il y a des gens qui disent « Ah ben moi, du coup, ça me donne envie, par exemple, la question des migrants, hein, ça me donne envie d'en traiter parce que là, on voit la difficulté réellement. Hein, quels sont les droits des migrants ?» Et donc, nous avons vu plusieurs initiatives se prendre. À propos de Calais, par exemple, hein, il y a des gens qui ont eu envie de monter des choses que le groupe de 10 personnes n'avait pas forcément prévues. Donc le thème se met à proliférer un peu. Et de fait, nous arrivons à un total de 20 à 23 séances portant sur le thème. Mais il y a d'autres rubriques. Il y a d'abord l'invité, hein, dont Gérard Engrand a parlé lors de la dernière émission, là qui a pris 6 rencontres le dernier week-end. Il y a ensuite ce que nous appelons la rubrique actualité éditoriale, hein, où là, nous présentons un certain nombre de livres qui nous paraissent intéressants et importants, qui sont parus dans l'année. Hein. Ça fait l'objet d'ailleurs d'un partenariat avec la FNAC, mais pas seulement. Hein. D'une manière générale, nous tenons à travailler aussi avec tous les libraires de la communauté urbaine, et ils viennent monter des tables de livres, hein, à chaque conférence. Hein, les gens peuvent donc acheter des livres et puissent les faire aussi dédicacer. Et puis la quatrième grande rubrique, c'est ce qu'on appelle les partenariats, c'est-à-dire que nous travaillons avec un certain nombre d'associations, d'organismes de la région, en particulier de la ville de Lille, même si nous veillons à être au-delà de Lille, dans toute la région. Hein. L'essentiel se passe quand même à Lille. Et là, nous avons des partenariats avec le Théâtre du Nord, par exemple, l'Hôpital Hurier, etc. Et puis avec des lycées. Hein. Voilà, la distribution en 4 grands secteurs.
D'accord. Eh bien, vous parliez tout à l'heure des modérateurs, justement, qui étaient souvent des professeurs de terminale. Et là, vous venez justement d'aborder les lycées. Est-ce que les manifestations ont parfois lieu dans des établissements scolaires ? Est-ce que vous avez des partenariats avec eux ? Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ça ?
Oui, c'est en partie notre amie Sophie Gigot, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, qui est responsable de cet aspect de notre travail. Alors, le travail dans les lycées, en fait, se fait toute l'année. Hein. Si vous voulez, il y a l'édition stricto sensu qui court du 4 au 26 novembre. Et puis, il y a des choses qui relèvent de partenariats à l'année. Par exemple, le partenariat avec le Théâtre du Nord se fait forcément sur l'année, puisqu'il s'agit de travailler à partir de la programmation du théâtre. Le partenariat avec l'Hôpital Hurier, ce sont des séances qui ont lieu entre midi et 2h, qui s'adressent au personnel soignant, aux médecins, mais aussi aux patients et éventuellement aux familles des patients, et qui en général portent sur des thèmes qui sont liés à la santé, au corps, etc. Ça aussi, ça se déroule sur toute l'année. Alors dans les lycées, oui, nous avons des séances dans les lycées qui sont organisées en général par le professeur de philosophie de l'établissement ou les professeurs de philosophie de l'établissement, ouverts à tous les élèves qui le veuillent. Hein, il y a 2 heures qui sont banalisées un samedi matin. Et nous essayons de faire qu'effectivement, des gens qui viennent habituellement à Cité Philo, qui sont des écrivains, des chercheurs, des universitaires, acceptent de venir aussi dans les lycées pour parler avec un public lycéen, ce qu'ils font très volontiers. Nous avons même un partenariat avec un collège, qui est le collège d'Avion. Hein, et nous essayons, oui, nous tenons beaucoup à cette dimension de notre travail.
Le week-end dernier, donc c'était Georges Didier Huberman qui intervenait sur de vendredi à dimanche sur 6 conférences. Mmh. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur ce week-end, comment il s'est déroulé, les sujets des conférences voilà.
Alors, c'était un très beau week-end parce qu'au fond, c'était une sorte de carte blanche à Georges Didier Huberman. Gérard Engrand vous a peut-être expliqué que ce n'est pas la première fois que nous invitons quelqu'un sur tout un week-end. Hein. Nous avions invité par exemple Claude Lefort autrefois. Nous avions invité Carlo Ginzburg, qui est un historien, un remarquable historien italien. La tradition était autrefois, sur 20 ans, nous avons une tradition constituée, soit d'inviter des pays. Mais nous avons invité beaucoup de pays, hein, y compris la philosophie africaine, nous avons invité la pensée iranienne une année, tous les pays d'Europe ont été invités. Et puis nous avons, les pays n'étant pas en nombre illimité, hein, nous avons alterné avec des personnes invitées, par exemple Michel Butor a été invité une année, etc. Cette année c'était Georges Huberman et en général on s'adresse à l'invité en lui proposant une problématique, un dispositif lié au travail que l'équipe a pu faire sur son œuvre. Là, il y avait 3 personnes qui s'étaient mises au travail. Et Georges Huberman a dit « Ça ne m'intéresse pas trop de revenir sur ce que j'ai fait. J'ai toujours envie qu'on parle que les choses se disent en faisant. » Et donc, il a proposé des séances, d'où l'idée d'une carte blanche, quoi. Des séances originales où, par exemple, il a dialogué, alors, sans filet, hein, sans préparation particulière, il a dialogué avec un vidéaste cinéaste de Saint-Étienne, où ils ont une séance sur la ville de Saint-Étienne, alors, parce que ce vidéaste, lui, est de Saint-Étienne. Didier Huberman est né à Saint-Étienne et il y a une réflexion comme ça sur la ville, sur le rapport qu'on peut entretenir à la ville, sur les images de cette ville. Et puis ça a pris d'ailleurs un tour un peu autobiographique qui était inattendu mais qui était tout à fait sympathique. En revanche, il y a une très belle conférence où on a vu la méthode. Je crois que Didier Huberman voulait nous montrer au fond comment il travaille. Et il a fait une très belle conférence, alors là il l'avait préparée, sur la notion de soulèvement. Et il a montré comment il travaillait sur les images, par Huberman, évidemment un penseur de l'image, qui considère les images comme des réalités à part entière. Il n'y a pas l'image d'un côté puis le réel de l'autre, dont l'image ne serait que le faux semblant ou l'apparence. Les images, a-t-il dit dans un débat qu'il a eu avec Sophie Gigot, les images sont des faits, sont même des actes. Et donc ces images, c'est parce qu'elles sont des faits et des actes qu'elles s'inscrivent profondément dans notre imaginaire. Et là, le travail qu'il fait actuellement sur soulèvement est un travail sur l'imaginaire qui accompagne les soulèvements, les révoltes, les moments révolutionnaires, les barricades par exemple. Et donc il a projeté un certain nombre d'images, certaines très connues, d'autres moins, accompagnées de très beaux textes de Hugo, de Baudelaire, qui ont été contemporains de moments révolutionnaires. Et il a réussi à montrer qu'il y a ce qu'il a appelé une sorte de morphologie, voyez-vous, du moment de la révolte. Le soulèvement, c'est l'érection de quelque chose. C'est comme une vague. Il montre comment dans le texte de Hugo, par exemple, la métaphore de la vague, de l'océan, du flux revient constamment. Et alors le moment qui m'a le plus étonné personnellement, c'est qu'à la fin, il a projeté des photos des mobilisations à Maïdan en Ukraine et sur la place Tahrir. Et il a montré qu'on avait là un nouveau dispositif, qui est le dispositif du cercle, où on se barricade dans un cercle qui ressemble un peu à ces cercles dans les westerns, où on se défend, hein. On met les chariots en cercle. Et bien c'est la même structure du cercle qui vient prendre la place de la structure traditionnelle de la barricade, dont peut-être finalement 68 aurait été une des dernières manifestations. Ouais. Donc c'est une façon d'interroger les images au plus près et qui donne des résultats tout à fait étonnants.
Vous avez dû assister à d'autres manifestations durant les deux semaines et demie même qui se sont déjà écoulées. Est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué particulièrement ou une même dans les quelques séances qu'il reste qu'il vous tarde de voir?
Écoutez, il y en a beaucoup que j'ai envie de voir. Il y en a malheureusement que j'ai raté parce que comme il y a beaucoup de choses, on ne peut pas. Il y a des choses qui sont en parallèle, donc on ne peut pas tout suivre. Bon, je pense qu'on nous aurons un beau dimanche de cinéma. Hein, c'est une tradition. J'oubliais dans les rubriques de signaler qu'il y a quand même un moment cinéma. En général, le dernier dimanche, là, il se trouve que la mission a débordé au-delà du 20, mais normalement, c'était le dimanche de clôture. Et c'est le cinéaste Alain Cavalier, hein, qui sera invité. Malheureusement, il ne pouvait pas venir, donc ce seront uniquement ses films qui seront projetés, mais on peut faire confiance à Jacques Lemière, qui est un peu le spécialiste du cinéma cinéphilo, hein, pour mettre en place des débats et des discussions qui permettront d'accompagner au plus près une œuvre qui peut paraître un peu difficile, hein, et qui est particulièrement originale. Voilà, sinon, que vous dire, il y a tant de choses. Là, vous me laissez un peu quoi ? Parce que, en plus, j'ai surtout, comme j'avais monté le thème, j'ai tenu à assister à toutes les conférences relatives au thème, si vous voulez. Et donc, malheureusement, je devrais, pour les autres, les regarder sur le site, puisque, je le précise, nous enregistrons en audio et pour la plupart même en vidéo toutes les rencontres, qui sont d'ailleurs même d'ores et déjà, nous travaillons de plus en plus vite, j'en suis assez étonné, on peut déjà voir sur notre site les enregistrements des toutes premières émissions, en particulier celle du 4 novembre, où nous avions fait une chose un peu nouvelle, où nous avions présenté le thème dans un dialogue avec Adèle Van Rett, puisqu'il y a un partenariat avec France Culture, Cité Philo, qui se passe les deux premiers jours. Elle enregistre des émissions pour les nouveaux chemins de la connaissance. Et elle avait accepté, en dehors, hors antenne, de dialoguer avec moi pendant une heure pour que nous puissions présenter au public le dispositif d'ensemble du thème « La République et l'universel ». Et le public en était vraiment ravi.
Tout à l'heure, vous avez dit qu'une des qualités principales pour aller au Festival Cité Philo, c'était la curiosité. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur ça ?
Alors, on nous a souvent demandé qui était notre public. Bon. On évalue en calculant le nombre de gens, la jauge des salles, etc. Entre 10 et 15 000 sont les années personnes qui viennent. Bon, cela dit, il y en a qui viennent plusieurs fois, donc ça fait forcément un petit peu moins. Et puis 15 000, c'était vraiment lorsque nous avions été déraisonnables, nous avions plus de 100 rencontres. Là, nous sommes revenus à 88, ce qui est déjà un petit peu plus raisonnable. Alors, il faudrait faire une enquête pour savoir qui vient. L'hypothèse que j'émets personnellement, c'est que nous nous adressons plutôt à ces classes moyennes intellectuelles qui travaillent dans le domaine de la santé, du droit, du militantisme social, du militantisme associatif. Donc là, même classe moyenne intellectuelle, il faut admettre au fond aussi cette partie des milieux populaires qui sont engagés dans un travail associatif, militants politiques éventuellement ou syndicaux, voyez-vous. C'est-à-dire des gens qui sont amenés à partir de leur activité dans la cité à éprouver un besoin d'approfondir des enjeux, des questions. Des gens donc qui, sans doute, lisent un peu, mais pas nécessairement, mais en tout cas qui se disent, bon voilà, là il y a quelque chose qui porte sur les politiques de santé, il y a quelque chose qui porte sur la République, il y a quelque chose qui porte sur l'art aussi, les gens qui travaillent dans le domaine de l'esthétique. Nous avions là un sous-thème qui s'appelle le sens du sentir, où il était question un petit peu d'esthétique. Il y a des gens qui éventuellement assistent aux conférences qu'on fait à l'hôpital Hurier, voyez-vous, et qui ensuite viendront à Cité Philo. Simplement, l'idée, c'est que c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, chacun peut prendre le risque de venir, quitte à découvrir que finalement, ça lui paraissait compliqué, ça a peut-être été un petit peu difficile, mais ça valait la peine de venir écouter, et ça valait peut-être la peine un jour de revenir.
Merci Alain Laume pour cette participation à notre émission Quoi de neuf. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur le site campuslille.com. Quant à moi, je vous retrouve mercredi prochain 17h pour un retour sur cette 20e édition de Cité Philo. Alors on ne rate pas le rendez-vous, mercredi 17h. Mais avant cela, rendez-vous le 22 novembre à 7h pour la matinale de l'Académie ESJ, où nous aborderons cette fois-ci les modes de révision de dernière minute. Parce que toi-même, tu sais, si tu es étudiant, que tu te retrouves toujours en retard pour réviser ces partiels, c'est pas bien. Vous écoutez Radio Campus, il est 17h27 et je rends la parole à René Lavergne.
Merci Claire Allard, donc la matinale qui a lieu tous les matins, évidemment, à partir de 7h sur le 106.6 FM, www.campuslille.com. Merci à notre invité d'aujourd'hui et peut-être déjà au prochain. On se retrouve de toute façon à 17h mercredi. Merci à tous.